toca a ti, toca a ti.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Quels sont les enjeux des élections provinciales en RDC? Ce soir, nous vous amenons dans le province du Nord Kivu et du Kasaï Oriental. Sur place, nous allons voir quels sont les problèmes spécifiques à ces provinces qui pourraient trouver des solutions locales, comment les dirigeants locaux qui seront élus le 29 octobre prochain vont mobiliser les recettes pour pallier effectivement à ces problèmes. Comme invité, nous avons Jean-Baptiste Nkongolo, assistant chargé du cours de gestion des ressources humaines à l'UNIC Goma. Il intervient dans la première partie de cette émission, bien entendu pour le compte du Nord Kivu. Isaac Kalongi, secrétaire provincial de l'Observatoire des médias congolais en Mbujimayi et correspondant du journal Éveil de Kinshasa. Nous serons avec lui dans la deuxième partie de cette émission pour le compte de la province donc du Kasaï Oriental. Bonsoir à tous nos invités.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Encore une fois, bonsoir à vous tous qui suivez cette émission. Fin ce soir de notre série d'émissions sur les enjeux des élections provinciales en RDC. En effet, depuis le début de la campagne électorale pour les élections provinciales, chaque mardi et vendredi, nous nous sommes rendus dans deux provinces de la RDC pour parler des enjeux de ces élections. Ces émissions étaient pour nous l'occasion de voir comment les députés provinciaux qui seront élus le 29 octobre prochain vont amener leurs provinces respectives à se développer et répondre ainsi aux aspirations de la population. Nous bouclons donc ce soir cette série d'émissions avec les provinces du Nord Kivu et du Kasaï Oriental. Et tout de suite, rejoignons notre invité en direct du Nord Kivu, M. Jean-Baptiste Nkongolo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes assistant chargé du cours de gestion des ressources humaines à l'UNIC Goma. Vous vivez au Nord Kivu. La campagne électorale pour le provincial a débuté, voilà, de cela près d'un mois. Qu'est-ce qu'on peut retenir des programmes et projets des candidats députés provinciaux du Nord Kivu?
Oui, vous savez que c'est la première fois que ces élections-là se déroulent dans nos provinces. Il était un peu difficile que cela puisse avoir des programmes très bien définis, mais de toutes les façons, nous pouvons dire que dans la plupart d'entre eux, ils voulaient un problème de réaménagement du territoire, l'aménagement des routes, l'aménagement des routes de desserte agricole, le problème d'eau et d'électricité. Et il y a aussi le problème de la sécurité sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu.
Et quel regard ont les habitants du Nord Kivu sur ces élections provinciales?
Oui, au Nord Kivu, ils ont beaucoup d'espoir. Hein. Ils estiment peut-être que ces élections provinciales pourront aboutir à la désignation d'éléments susceptibles de pouvoir résoudre la plupart de leurs problèmes. Et peut-être que les dirigeants qui seront élus demain, compte tenu des contraintes de leur base, ils pourront facilement organiser la province, s'intéresser aux infrastructures, terminer avec le problème de l'insécurité et accueillir les financements de façon à pouvoir permettre un développement harmonieux.
Alors, voyons tout de suite quels sont les grands défis de ces élections provinciales que les dirigeants locaux qui seront élus au Nord Kivu devront relever pour cette province. La province du Nord Kivu connaît entre autres le problème de l'insécurité. Vous l'avez déjà dit, cela dû à la présence de groupes armés étrangers et des éléments non brassés. Et à cela s'ajoute celui du délabrement des infrastructures et de la baisse de la production agro-pastorale. Suivons d'autres détails dans cet entretien entre Bernardin Nyangui et Babel Mpongo.
Bernardin Nyangui, bonsoir.
Bonsoir, Babel.
Pouvez-vous nous dire quels sont les problèmes majeurs de la province du Nord Kivu?
Babel, il faut d'abord dire que l'insécurité représente le problème numéro un dans la province et celle-ci est liée principalement à la présence dans la province des groupes armés étrangers, et c'est comme les FDLR et les Interahamwe et des milices locales, notamment des Mai Mai et le groupe du général déchu Laurent Kunda. Il y a aussi de tracasseries policières et militaires, sans oublier les éléments des FRDC qui refusent d'aller au brassage. Les populations sont donc victimes non seulement de tracasseries, mais aussi d'assassinats, de viols des femmes, de pillage des véhicules, des marchandises et des récoltes. Il y a aussi du braconnage dans le parc national de Virunga. Et à cause de cette situation d'insécurité, la relance des activités touristiques dans le parc devient pratiquement impossible. Les sites touristiques de Bikima, il y a aussi Tiangu, de Nyiragongo, de Nyamilima sont en état de dégradation. Voilà.
Et du côté des infrastructures routières, le problème ne se pose pas ?
Et si, justement, il y a de sérieux problèmes liés surtout à la voirie. Les routes de dessertes agricoles sont quasiment impraticables et ceci fait obstacle aux échanges à l'intérieur de la province ainsi qu'avec les autres provinces, mais aussi influe sur les coûts de produits commercialisés et qui sont très élevés. Les routes ont été laissées à l'abandon à cause des guerres, de la corruption et aujourd'hui à cause de la présence de groupes armés. Il y a également le problème d'effondrement des secteurs de la production agropastorale et de la pêche. Et par rapport aux années 1980-1985, la production agropastorale et de la pêche a connu une régression importante. Aussi, la majorité de la population n'a pas accès à l'eau potable et c'est suite à l'insuffisance des sources d'eau aménagées en milieu rural et l'incapacité de la régie des eaux de satisfaire à la demande en milieu urbain. Il y a aussi la capacité de desserte sanitaire en province du Nord Kivu est insuffisante par rapport à la population. Et il ne faut pas oublier l'insuffisance et le délabrement des infrastructures éducatives. Non seulement le niveau d'instruction de la population est trop bas par rapport à d'autres provinces, la scolarisation des filles accuse aussi du retard.
Merci Bernadette pour ces informations.
Ok, merci Babel.
Oui, voilà, monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, nous venons donc de suivre les différents problèmes qui connaît la province du Nord Kivu. On parle entre autres du problème lié à l'insécurité due à la présence de groupes armés étrangers et des éléments non brassés. Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, quel danger la présence de ces éléments armés présente pour cette province sur le plan social et économique?
Oui, mais sur le plan social et économique, vous voyez directement lorsque il y a des groupes armés, il n'y a pas de circulation et les vivres ne peuvent pas circuler, les routes sont coupées évidemment parce que les gens ne peuvent pas échanger, il n'y a pas d'échanges commerciaux. Vous trouvez en ce moment-là que pour passer de Goma à Walikale, il faut passer par Masisi. Et s'il y avait de la sécurité, je crois que le manioc de Masisi pourrait aller à Walikale. De Walikale, on peut arriver facilement à Goma. Il faudrait aussi considérer que le tronçon routier Goma-Beni-Butembo n'est pas aussi sécurisé. Tout cela pose des problèmes. Pourtant, il y a quelques années, les gens pouvaient facilement prendre leur bus et arriver à Butembo ou à Beni le même jour. Tout cela, ça pose des problèmes sur le plan social. Et sur le plan économique, ça relève d'un problème très sérieux, d'autant plus que s'il y avait une route asphaltée, ou une route parce qu'on n'a pas encore construit des routes, parce qu'il faudrait des routes bien construites, à partir de Goma jusqu'à Walikale, si à chaque tronçon de route, il y avait un poste de police ou un poste de sécurisation, je crois qu'il n'y aurait pas de problème, les gens ne s'entretueraient pas en plus.
Oui, mais est-ce que ce problème est vraiment criant, ce problème-là de la sécurité?
Oui, effectivement. Pour ma part, j'estime que ce problème de sécurité-là est beaucoup plus lié au manque d'infrastructure. Je disais tout à l'heure que si la route était asphaltée pour arriver à Walikale, c'est là que le problème provincial devrait être résolu. Donc, on ferait à chaque 10 km, il y aurait un poste de police. Et en ce moment-là, il y aurait un bon contrôle de la circulation des personnes et des biens. Et lorsque les personnes et les biens circulent aisément, alors il y a une relance des activités économiques et même l'agriculture, parce que c'est un milieu agro-pastoral, mais c'est aussi un milieu où il y a des gisements de minerais partout.
Oui, et que faire alors pour que, par exemple, les habitants de ces contrées retrouvent leur quiétude d'antan?
Je crois qu'il faudrait que le gouvernement central puisse prendre en charge ces problèmes de sécurité. Je pense aussi qu'il faudrait que l'infrastructure routière soit réaménagée. Il faudrait des grandes tronçons de route qui puissent faire que les grands espaces de terre puissent être utilisés, qu'il y ait des gens et des personnes qui circulent aisément. Et là, il faudrait que le pouvoir central, pas simplement au niveau provincial, évidemment, avec les élections, il y aura comme un système de tonus à partir de la base pour obliger le pouvoir central à pouvoir s'intéresser à la question qui ruine actuellement la province du Nord.
Donc le problème des sécurités concerne également le pouvoir central, ça ne sera pas seulement la tâche laissée aux députés provinciaux.
Mais non, parce qu'en fait, c'est ça la sécurité du territoire, c'est ça la souveraineté du pays. La souveraineté du pays suppose que le pouvoir central devra se rassurer que le territoire est en paix et que tout le monde vit avec quiétude. Bien sûr que les députés provinciaux auront à avoir des problèmes qui partent de la base parce qu'ils vivent le quotidien du jour, mais ils devront transporter ces problèmes-là à partir du niveau provincial. Ça pourra arriver au pouvoir central. Mais sinon, c'est le pouvoir central qui doit avoir des forces suffisantes pour pouvoir élaguer un peu ce problème de sécurité et aussi avoir des moyens pour relier les différents territoires, les différentes localités, pour que les gens puissent circuler aisément.
Oui, vous parlez des moyens, il faudra que les députés provinciaux puissent avoir des moyens. Voyons effectivement de quels atouts dispose la province du Nord Kivu, ou bien de quels moyens pourrait disposer le nouveau député qui seront élus le 29 octobre prochain. Alors, voyons la photographie de ces atouts-là avec notre confrère Claude Kianza.
De par son climat tropical de montagne, caractérisé par la fraîcheur, mais aussi par l'abondance de pluie, la province du Nord Kivu possède beaucoup d'atouts agro-pastoraux. On y cultive le thé, le café, le sorgho et les leusines dans les territoires de Lubero. Les leusines et le sorgho sont exportés notamment vers le Rwanda voisin. Les légumes sont plantés dans le territoire de Rutshuru, précisément au village de Kibumba. La pomme de terre, elle, est cultivée en grande partie dans les territoires de Massissi et Lubero, tandis que le manioc, le maïs et les haricots sont exploités dans tous les territoires du Nord Kivu, c'est-à-dire Massissi, Lubero, Beni et Walikale. Signalons aussi que les produits des champs provenant du Nord Kivu sont consommés dans les autres provinces du pays, ce qui représente des ressources financières pour cette province. Autre atout de cette province, c'est l'élevage de vaches, de moutons et de chèvres. Comme sous-produit de cet élevage, c'est par exemple la production du lait, du fromage et de yaourt. Côté ressources naturelles de cette province, nous pouvons citer le coltan, la cassitérite, l'or, le diamant dans les zones minières du territoire de Walikale, Massissi et Lubero, sans oublier le gaz méthane qui n'est pas encore exploité. Il y a aussi pour la province du Nord Kivu des possibilités d'exploiter le tourisme dans le parc national de Virunga. L'autre source de recettes de cette province, ce sont les taxes provinciales des entités administratives décentralisées, celles perçues sur les activités commerciales, boutiques et étalages, ainsi que celles sur l'importation des marchandises. La province peut aussi compter sur les entreprises génératrices de recettes, telles que la SNEL et la Régie des eaux, avec le paiement des factures sur la consommation d'eau potable et d'électricité. Les autres ressources du Nord Kivu peuvent provenir des taxes sur le péage des routes, perçues sur les engins qui exploitent la voirie et les taxes sur le transport lacustre.
Oui, monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, donc la province du Nord Kivu ne manque pas d'atouts. Est-ce que ces ressources pourraient contribuer au développement de la province du Nord Kivu?
Oui, évidemment.
Mais comment?
Toute cette analyse-là prouve à suffisance que la province du Nord Kivu a beaucoup de potentialités. Elle regorge beaucoup de richesses. Elle regorge des richesses minières, comme on le dit, le diamant, le coltan, l'or. Elle regorge aussi des richesses agricoles, agro-pastorales, notamment l'élevage dans le Massissi, même dans le Lubero. Et il y a aussi l'importation, l'exportation de certains produits comme le café, le thé. Ce sont des éléments très importants, mais pour que ça puisse vraiment être vraiment utile à l'épanouissement, à l'éclosion de l'économie, du développement du milieu, il faudrait qu'il y ait des routes, il faudrait qu'il y ait des infrastructures. Et quand il n'y a pas d'infrastructures, il est difficile que l'on puisse pouvoir mettre en valeur la terre, le sol comme le sous-sol, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'investissement. Et donc, pour qu'il y ait des investissements, il faut que l'infrastructure suive. Alors, quand il n'y a pas d'infrastructure, comment on pouvait venir installer une usine à Beni, à Butembo, à Walikale comme à Goma quand il n'y a pas d'électricité? Comment peut-on amener à pouvoir développer l'industrie touristique pour aller à la Windi, aller à Kamango? Pour aller à Kamango, il faudrait une route. Et quand on n'a pas bien développé ces routes, quand on n'a pas bien développé d'autres infrastructures comme l'électricité, comment peut-on relever le défi du développement de la province.
Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, on sait quand même, parmi les atouts de cette province, il y a aussi les taxes que paient les entreprises publiques et privées de cette province, il y a aussi les douanes. Mais comment est-ce qu'on, à partir même de ces ressources-là, on peut également contribuer au développement de la province du Nord Kivu?
Oui, justement, lorsque tout ce qui est perçu comme taxe peut entrer dans le compte du trésor public, ça serait mieux. Et pour qu'il n'y ait plus de taxes, il faut qu'il y ait des opérateurs économiques. Et pour qu'il y ait des opérateurs économiques, il faut qu'il y ait de l'infrastructure. Et s'il y a de l'infrastructure, il y aura une éclosion économique. Et quand il y a une éclosion économique, il y aura beaucoup plus de financement. Et quand il y a des financements, et alors, il y aura des taxes qui seront perçues. Et si ces taxes qui sont perçues sont réellement perçues et sont entrées dans le compte du trésor public ou dans le compte de l'administration provinciale, cette administration aura les moyens de pouvoir développer, tant soit peu, un certain nombre d'activités qui sont encore en abandon jusqu'à ce jour.
Oui, M. Jean-Baptiste Nkongolo, un auditeur anonyme dit ceci. Pour cette province, il faut bien maîtriser les recettes de douane et bien lutter contre la corruption et les détournements des nids publics. Qu'est-ce que vous dites de cela? On a l'impression que l'argent ne va pas dans les caisses de l'État finalement.
Évidemment, il peut aussi avoir raison, parce que c'est un fait que tout ce qui est perçu n'est pas directement dans le compte du trésor public ou bien dans les caisses de l'État, mais il faudrait qu'on fournisse un effort pour que de telles mentalités puissent cesser. Il n'est pas simplement un problème des corrompus, mais il y a aussi le problème des corrupteurs. Tout ça, ce sont des mentalités qu'il faudrait que partout ça cesse, non seulement à la douane, mais aussi dans d'autres secteurs de la vie nationale.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle disposition de la Constitution qui rétrocède au moins 40% des recettes qui proviendraient des impôts et des taxes à certaines provinces?
Oui, évidemment, ça c'est très important. Je dis ceci, mais les 40% là, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux réalisations d'une province.
Oui.
Disons que pour que ces 40% puissent être vraiment 40%, il faudrait que l'État puisse mettre des infrastructures qui permettent à cette province-là de générer réellement les recettes. Pour les générer, il faut produire. Et quand on ne produit pas, on ne peut pas générer les recettes. Vous vous rendez compte? 40% pour le Nord Kivu, ce n'est pas 40% pour la ville de Kinshasa.
Oui, mais...
On se compte qu'à Kinshasa, pour les recettes, à Kinshasa ou dans le bas pour les recettes, ce n'est pas la même chose que dans le Nord Kivu. Alors, pour que le Nord Kivu puisse réaliser de bonnes recettes, il faudrait aussi que l'infrastructure suive. Alors, il y aura des importations, il y aura des exportations, il y aura des productions locales.
Alors, au Nord Kivu, nous avons interrogé quelques personnes qui, effectivement, parlent de ces 40% qui seront rétrocédés aux provinces et qui estiment que cet argent doit être utilisé dans la voirie, la santé et les projets de développement. Ces personnes ont été interrogées par notre conseillère Gisèle Cage. Je vous invite à les suivre.
Je réponds au nom de Jérôme Moussouba. C'est impératif que les 40% des recettes attribuées à notre province du Nord Kivu soient affectées prioritairement au débouchage des routes et des recettes agricoles, à l'électricité et l'eau, la santé et l'enseignement. Les restes n'est pas une priorité. Merci.
Monsieur David Katumbi, le 40% généralement doivent être orientés dans les projets de développement. Donc, sur les écoles, les santé, les routes. Mais nous devons aussi faire attention. Savoir d'abord c'est combien. Donc, il faut savoir d'abord quelles sont les recettes réellement que nous faisons entrer ici en province, avant de décider sur les 40. Mais si on ne connaît pas les recettes, ça ne sert à rien. Il faut faire vraiment un travail d'audit pour qu'on sache réellement combien nous encaissons et combien nous gardons ici chez nous. Mais sinon, ça va être un travail inutile.
Je m'appelle Jean-Marie Bokulumanya. Vous savez, Goma a un problème de circulation. La route qui est fréquentée, elle est trop étroite. Tous les habitants vont dans le même sens de l'est à l'ouest. Il y a pourtant d'autres rues qui peuvent être aménagées et asphaltées pour qu'on désengorge cette route qui est praticable. Beaucoup d'accidents sont observés et je pense que si ces 40% peuvent être affectés à la réhabilitation de la voirie à Goma, ça peut être une bonne chose.
Oui, Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, qu'est-ce que vous dites de ces réactions des habitants de Goma?
Ce sont des réactions tout à fait légitimes, madame. Ce sont des réactions tout à fait légitimes dans la mesure où il faudrait effectivement que les 40% qui seront rétrocédés à la province, puissent servir effectivement à l'amélioration des conditions de vie de la population. Et surtout dans le domaine sanitaire. Il faudrait qu'on crée ou qu'on aménage des institutions sanitaires. Dans une population de 3 millions, de plus de 3 millions d'habitants, vous trouvez que nous n'avons que 3 ou 4 centres médicaux. Ce n'est pas normal, ce n'est pas suffisant. Il faudrait aussi qu'on puisse réaménager la voirie urbaine. Chaque fois lorsqu'il pleut, par exemple la ville de Goma, vous trouvez qu'il y a beaucoup de marges qui se pleut partout. Et une grande ville qui est en train d'éclore, il n'y a plus qu'une seule avenue, qui longe vers Katindola. Les autres avenues, on ne peut même pas appeler avenue. Tout ça, il faudrait qu'on s'y mette pour que l'on puisse désenclaver les zones, les communes qui sont à Goma. À l'intérieur, dans une cité comme Boutembo, Boutembo devait être électrifié. On devait renforcer des petites centrales qui naissent à travers la province. Cela pouvait peut-être aider que l'évolution des structures puisse être acceptée par d'autres investisseurs qui pourront arriver dans la province.
Mais Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, est-ce que vous pensez que les électeurs du Nord Kivu devraient tenir compte de tous ces enjeux dans le choix de leurs députés provinciaux?
Oui, je vous ai dit quand même, Broy, que ces électeurs-là, c'est la première fois qu'ils élisent. Le plus souvent, on est élu parce qu'on est frère, on est ami, on est cousin. Mais je crois qu'au fur et à mesure de l'expérience, ils pourront s'en tenir à cela. Je pense aussi que au moment où nous sommes en train de réfléchir là-dessus, ils en tiendront compte pour élire des personnes susceptibles de pouvoir leur rendre leur ville, leur province à même d'être un milieu très accueillant parce que c'est un milieu touristique et il suffit qu'il y ait une éclosion économique. Il y aurait beaucoup de touristes et on aurait beaucoup de recettes.
Merci Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo. Nous allons revenir à vous vers la fin de cette émission, mais rendons-nous maintenant tout de suite dans la province du Kasaï oriental.
En Mbujimayi sur 93,8.
Nous rejoignons Monsieur Isaac Kalonji. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, vous êtes secrétaire provincial de l'Observatoire des médias congolais en Mbujimayi et correspondant du journal Éveil des Kinshasa. D'emblée, comment se déroule la campagne électorale pour le provincial au Kasaï oriental?
La campagne électorale se porte bien. Elle se fait nuitamment. Et il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce comportement des candidats. C'est soit parce que la journée, tout le monde est occupé dans ses occupations journalières, ou bien parce que la journée, les gens ont peur des affrontements. C'est ainsi qu'ils ont opté pour préparer cette campagne nuitamment. Et il faut reconnaître que c'est une province considérée jusque hier comme bastion de l'opposition radicale. Mais quant aux enjeux, les enjeux sont de taille parce que c'est une province fortement enclavée où on a depuis 46 ans abandonné l'agriculture et l'élevage au profit de l'exploitation artisanale du diamant.
Oui, Monsieur Isaac Kalonji, comme vous parlez effectivement de ces différents problèmes, il y a nos confrères qui sont sur le terrain, sur place même, qui en ont épingler aussi quelques-uns et nous vous invitons à le suivre dans cet entretien entre Chris Moukand et Nadine Foula. Suivant. Bonsoir Chris.
Bonsoir Nadine Foula.
Chris, voulez-vous nous dire quels sont les problèmes majeurs qui se posent à la province du Kasaï oriental dans sa configuration actuelle?
Nadine, le Kasaï oriental est connu pour son diamant. Selon plusieurs sources, c'est sa force et c'est sa faiblesse également. Sa faiblesse car la grande majorité de la population se consacre à l'exploitation du diamant. Beaucoup d'enfants préfèrent exploiter le diamant au lieu d'étudier. Selon une enquête de l'UNICEF dans le territoire de Lupatapata, seuls 10% d'enfants en âge de scolarisation vont effectivement à l'école. Cela a comme autre conséquence un taux élevé de vols à main armée, un nombre élevé d'enfants de la rue. En outre, l'agriculture a été presque abandonnée. La preuve, le maïs qui est l'aliment de base de la province vient du Katanga et du Kasaï occidental. Ceci fait qu'il y ait des carences lors des perturbations de transport aérien et ferroviaire.
La deuxième difficulté majeure, c'est le réseau routier, n'est-ce pas Chris?
Oui Nadine, le réseau routier n'a pas été entretenu depuis 40 ans. La route nationale numéro 1 qui relie Mbujimayi à Katanga est en très mauvais état. Le problème se pose presque de la même manière dans les autres parties du Kasaï oriental. La plupart des routes de desserte agricole sont impraticables.
Et qu'en est-il de l'urbanisation de la ville?
Elle pose également problème. Dans la seule ville de Mbujimayi, l'office de voiries et drainage a identifié 47 zones d'effondrement et 120 têtes d'érosion. Des quartiers entiers s'effondrent, laissant des personnes sans ressources. Par ailleurs, la population connaît de grandes difficultés pour accéder à l'eau potable et l'énergie électrique est très déficitaire. Enfin, Nadine, il n'y a pas assez de petites et moyennes entreprises au Kasaï oriental.
Merci Chris pour toutes ces informations.
Merci à vous Nadine Foula.
Alors Monsieur Isaac Kalongi, si nous avons bien compris, cette province vit surtout le méfait de l'exploitation du diamant qui a comme conséquence donc l'abandon des études par le jeune, donc qui fait un taux élevé selon nos confrères du banditisme, mais aussi conséquence abandon du domaine agricole, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et ces problèmes seraient dus à quoi?
Et il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, madame. Le premier facteur, c'est l'irresponsabilité de l'État lui-même. Et je me demande, moi, comment le Parlement prochain, le Parlement provincial prochain, va-t-il se tirer d'affaire face à une situation qui a pris déjà 46 ans. Et je me demande aussi comment ils vont faire face à tous ces problèmes auxquels la province est confrontée, notamment du point de vue enclavement. C'est une province fermée totalement sur l'extérieur et les quelques voies de communication existantes sont pratiquement en délabrement. C'est difficile aussi pour que la population soit approvisionnée en vivres, étant donné qu'à l'intérieur de la province, on ne cultive pas, personne ne s'adonne à l'agriculture et tout le monde a opté pour le diamant artisanal. Et c'est ainsi que les élus du peuple de la province de demain, qui seront appelés à siéger à l'Assemblée provinciale, auront du pain sur la planche, étant donné que les problèmes du Kasaï oriental sont multiples, complexes et même difficiles à affronter.
Oui, Monsieur Isaac Kalongi, pourquoi c'est cet engouement à l'exploitation du diamant?
Et en 1973, le gouvernement de l'époque avait pris une série de décisions libéralisant l'exploitation artisanale du diamant, mais il a manqué totalement les textes d'accompagnement de cette ordonnance-là à l'époque, si bien que aujourd'hui n'importe qui peut y aller, peut agir de n'importe quelle manière, peut sortir avec son diamant à l'extérieur sans passer par les circuits officiels légalement établis. C'est ce qui fait qu'il y a fuite des capitaux, il y a fuite des recettes aussi pour la province, si bien que aujourd'hui, la province a des ressources minières, mais elle contraste avec la pauvreté de la population qui est fortement accentuée. Et on n'arrive pas à s'expliquer que la province qui a la forêt dense, qui a des ressources minières naturelles abondantes, et que sa population soit si pauvre que ça.
Oui, effectivement, M. Isaac Kalongi, de nombreuses questions se posent à ces propos. Si toute la population s'élance dans l'exploitation du diamant, alors qu'on sait que le diamant, vraiment, c'est une des ressources qui amène de l'argent, on ne comprend pas comment est-ce que cette population n'arrive même pas à pallier à certains problèmes même de la province. Comment comprendre cela?
C'est un contraste, madame, un contraste historique. Et tu ne peux pas t'imaginer qu'une seule pierre peut coûter 18 millions de dollars et celui qui sort avec cette pierre, quand il a l'argent, il ne retourne pas l'argent au pays. Il doit s'installer au Canada, il doit s'installer à Paris. Et toutes ces recettes-là, comme ce n'est pas canalisé dans les comptes du trésor public, ça appauvrit davantage la population et ceux qui exploitent les comptoirs de vente de diamants ne font que corrompre les autorités pour que les autorités les laissent sortir avec toute la quantité de diamants produits d'une manière artisanale. C'est ce qui fait que nous sommes dans une province riche en potentialité, mais pauvre en ressources.
Oui, vous dites riche en potentialité, mais effectivement, pour cette province qui a été créée en 1966, on sait qu'elle est reconnue pour ses riches mines de diamants et beaucoup d'autres ressources naturelles d'ailleurs, que je vous invite à suivre ici dans ces détails nous donnés par Freddy Lufuluabo.
L'exploitation industrielle du diamant au Kasaï oriental est assurée par la société minière de Bakwanga Miba. La présence de cette pierre précieuse attire beaucoup d'investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. Trois nouvelles sociétés minières ont contracté un droit d'exploitation avec la NIBA. Elle trouve sur place des sociétés brassicoles et tabacicoles ainsi que des comptoirs de diamants. Outre le diamant, cette province compte d'autres ressources non encore exploitées selon la division provinciale du plan. C'est le cas des gisements d'or dans le territoire de Lulu, de fer dans celui de Kabeyakamwanga ainsi que des platines et du ciment dans le territoire de Katanda. On pourrait aussi exploiter du bois dans le district de Sankuru où se trouve une partie de la forêt équatoriale. Le Kasaï oriental pourrait produire localement de l'électricité dans trois sites.
les chutes de Kabeya-Kamwanga, de Kafumbu dans le territoire de Ngandajika, ainsi que de Tidjiville à Kabinda. Il y a lieu de renforcer également la capacité du barrage hydroélectrique de Tchala, près d'Mbujimayi, ainsi que du petit barrage qui alimente la cité de Bibanga à Katanda. L'agriculture de cette province produit du maïs, de l'huile de palme et du coton, notamment dans les territoires de Ngandajika et de Katanda. Le Kasaï oriental dispose d'autres atouts qui favorisent des transactions commerciales. Il s'agit des routes qui le relient aux provinces voisines du Maniema, du Katanga et du Kasaï occidental, mais aussi du chemin de fer qui fait de la ville de Mweneditu un véritable carrefour entre le Katanga et le Kasaï occidental. À cela s'ajoute l'aéroport de Bipemba qui, par le passé, a constitué l'unique porte de sortie du Kasaï oriental vers l'étranger.
Monsieur Isaac Kalonji, donc tantôt là vous nous disiez que vous ne savez pas comment est-ce que les nouveaux dirigeants qui seront élus au Kasaï oriental pourraient intervenir pour le développement de cette province. Est-ce qu'à partir de tous ces moyens ici que nous venons de voir là, ils ne peuvent pas intervenir pour cette province?
Madame, une question c'est de disposer de toutes ces ressources, mais une autre c'est de savoir les utiliser rationnellement. La difficulté que nous avons présentement ici, c'est celle liée au comportement individuel et même collectif des élus qui seront en poste demain. Vont-ils comprendre la haute portée du message que la presse par la radio Okapi apporte aujourd'hui pour que, une fois élus, les 10 ministres qui seront les responsables de l'exécutif provincial et les 66 députés provinciaux qui seront élus puissent travailler en synergie pour que toutes ces ressources servent au développement de la province au lieu de continuer à servir les poches de tierces personnes. La difficulté que nous avons aussi, c'est également le fait que si demain nous avons un Parlement efficace, doté de cadres compétents, expérimentés et même disposés à servir le peuple, et nous avons une équipe gouvernementale provinciale constituée des cadres de la province, respectueux des lois et des règlements du pays, nous aurons la capacité de faire face à tous ces problèmes et même les résoudre d'une manière collective dans l'ensemble au bout du premier mandat de ces gouvernants élus. Oui. Mais si, par malheur, nous avons même posé un acte irrationnel en élisant les voyageurs, en élisant les gens sans résidence chez nous, en élisant les cadres qui ont fait preuve dans la première, deuxième et troisième législature, et nous les mettons en fonction, et nous serons responsables de l'échec que pourra connaître la province du point de vue développement.
Monsieur Isaac Kalonji, je suis tenté de vous poser une question. Si vous-même vous étiez candidat député provincial, comment est-ce que vous amèneriez au fait les Kasaï orientales à capitaliser ces ressources pour un bon développement?
Et Madame, tout dépend du plan de travail qui sera élaboré par l'ensemble du Parlement provincial. Si moi j'étais député provincial, étant donné que j'ai connu la création de la province, je suis aussi parmi ceux qui sont venus comme notables. J'ai 62 ans, c'est pas peu de choses, j'ai vécu à sa création, j'ai vécu à son épanouissement, mais c'est une province considérée par les habitants comme sinistrée. Et moi-même étant sinistré, parce que je viens d'une autre province où j'ai été refoulé, venant ici, je tiens absolument à ce que cette province se développe au même titre que les autres.
Oui, mais comment cela, capitaliser?
Il faudra mettre un minimum de volonté, un minimum d'expérience au service de la province, de sorte que une fois l'Assemblée mise en place, le gouvernement mis en place et les conseils municipaux mis en place, que nous puissions travailler en synergie. Mais malheureusement, madame, je ne suis ni député ni candidat.
Monsieur Isaac Kalonji, précisément comment, quand par exemple vous parlez de l'électricité, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait électricité dans la province du Kasaï oriental, concrètement?
Madame, je vous rassure et je vous garantis que c'est une province quadrillée par les rivières, les ruisseaux, il n'y en a pas deux au Congo. Mais c'est étonnant de voir que cette province qui a des chutes partout et que en procédant par la construction des mini-barrages, on peut résoudre définitivement le problème d'énergie électrique qui freine l'industrialisation de la province. Et nous avons une couche de calcaire qui va du territoire de Katanda au territoire de Kavekamang, qui peut constituer une cimenterie moderne, qui peut aider à la réalisation de ces travaux dont je parle. Mais qui y pense à tout ça? C'est ça la difficulté. Et même le barrage dont on dispose, qui donne 14 mégawatts nécessaires à l'exploitation industrielle du diamant par l'AMIBA, ce barrage-là n'est pas capable de fournir l'énergie électrique pour toute la province. À défaut du courant solaire, on peut aussi construire des mini-barrages qui ne coûtent pas plus de 3 millions de dollars. Et la province dispose de capitaux justement pour faire face à ces besoins-là. Nous devons savoir hiérarchiser nos besoins pour que, une fois la province dotée de mini-barrages, son industrialisation ne posera pas de problème et le problème d'eau sera résolu de fait. Étant donné que l'eau là vient du courant électrique et que c'est une condition sine qua non pour avoir l'eau potable dans la province. On n'en a pas, il n'y a pas de fontaines érigées. La FOMI MIBA a tenté d'ériger dans certains villages des fontaines et des sources de captage d'eau potable pour aider la population, et surtout au plus fort du temps des maladies qui ont presque endeuillé la province. Et la FOMI seule n'a pas su atteindre toutes les localités et toutes les contrées de la province. Mais c'est qu'il est impérieux que le Parlement qui viendra conçoive un plan de construction de ces mini-barrages qui, à défaut des sous-tirages d'Inga vers Chimburu, comme on avait proposé à l'époque avec des discours démagogiques, nous pouvons avoir du courant énergique at home, c'est-à-dire à la maison.
Oui, monsieur Isaac Kalongi, je retenais entre autres dans ce que vous aviez dit qu'il faut hiérarchiser au fait les besoins et les priorités. Voici ce que les habitants de Mbujimayi pensent être prioritaire pour eux en ce qui concerne le développement même de leur province. Suivant.
Si réellement les 40% sera accordé pour la province, la grande partie de cet argent peut être utilisée pour l'agriculture, la santé publique, l'enseignement et l'entretien des routes de l'usette agricole.
Il faudrait que cette option soit en moins priorisée vers les sociales. Vous savez, si nous avons le problème d'eau, alors si le problème d'eau est vraiment réglé, ce sera en tout cas vraiment une très bonne chose pour la population bougimaïenne.
Il faut réhabiliter les routes, rétablir aussi le système éducatif qui est par terre. Mais tout est à l'effort au Bassin oriental. C'est une nouvelle province qui n'a jamais été construite.
Le problème d'habitation, est-ce qu'en Bougimaï, il n'y a pas vraiment des habitations publiques que l'État a construites?
Pour moi, les 40%, il faut qu'on mette ça à la lutte contre les érosions.
La santé d'abord, et puis l'infrastructure. Vous voyez l'état de route. Même si l'hôpital est construit à Kamiji, quelque part, mais pour y aller, il faut quand même qu'il y ait des routes. Et puis de l'eau, l'électricité, les tracasseries, quitter Nanajika vers ici, quitter ici vers Chibombo. Il y a toujours des barrières. Des barrières normales et puis des barrières de voleurs. En tout cas, il faut que les députés que nous allons choisir, qu'ils comprennent.
Les 40% donnés à la province, il faut l'affecter dans le secteur de la construction des infrastructures routières, telles que les routes de dessert agricole. Nous avons des routes pratiquement délabrées. Pourtant, au village, il y a le secteur agricole qui est beaucoup plus développé et les villageois n'ont pas la possibilité d'amener leurs récoltes dans les centres-villes.
Oui, monsieur Isaac Kalongi, ces habitants rejoignent finalement l'idée que vous avez avancée tantôt là sur les besoins même et les priorités de cette province. Donc nous n'allons plus revenir là-dessus. Mais il y a une question d'un auditeur peut-être que vous pouvez éclairer. Il s'appelle Rissa Sikoko. Il demande, est-ce que le 40% des provinces peuvent être utilisées pour payer les fonctionnaires de ces entités?
Merci madame de cette question aussi pertinente que capital. Je propose qu'il faudra savoir d'abord s'autosuffire, c'est-à-dire compter sur ses propres forces localement, savoir mobiliser les recettes dans la province, c'est-à-dire que créer un seul centre d'ordonnancement, parce que ici maintenant, présentement, madame, ce que vous ne savez pas, il y a plusieurs centres d'ordonnancement dans la province. C'est ainsi que les recettes fiscales, domaniales, foncières et même administratives et judiciaires ne prennent pas le chemin du trésor public. C'est un grand défi à relever pour nos prochaines institutions élues. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les 40% dont on parle ici, on ne fait pas allusion immédiatement à la caisse de péréquation. Nous sommes d'abord au niveau de la province. il y a des travaux d'intérêt collectif, d'intérêt public locaux qui doivent être faits avec les recettes locales, mais il y a des travaux qui nécessitent l'intervention du gouvernement central. C'est là qu'on va passer par la caisse de péréquation qui sera instituée dans le gouvernement central. Mais il se pose un problème, c'est que nos 40% sont considérés comme un fonds revenant exclusivement à la province, entité décentralisée. De sorte que on ne peut pas soigner la tête lorsque les yeux ne sont pas soignés et les pieds. Il faut que le gouvernement qui va être mis en place tienne compte de la spécificité des problèmes qui se posent à chaque entité localement, et les 40% à ce moment-là serviront à décoller d'une manière sociale, d'une manière économique, d'une manière culturelle au plan de la province. Comment voulez-vous, madame, qu'aujourd'hui et toutes les écoles presque sont dégarnies? Les élèves préfèrent les carrières minières. Et nos hôpitaux n'ont pas de produits pharmaceutiques. Et quand bien même dans un hôpital, il y en aura, et les produits coûtent les yeux de la tête.
Oui, monsieur Isaac Kalongé, vous aviez déjà parlé de tout cela, et nous comprenons de par votre argumentaire que les députés provinciaux qui seront élus pour la province du Kasaï oriental ont du pain sur la planche, mais nous allons évoluer. Il nous reste encore quelques minutes pour parler des opinions des auditeurs. Nadine Foula qui est déjà dans ses studios de nous en dire un peu plus. Commençons par Justin Mouilo de Boutembou au Nord Kivu, qui estime qu'on ne peut pas parler des ressources au Nord Kivu tant que les bandes armées sont toujours actives dans la plupart des territoires productifs de la province. Cela est un premier défi à relever, termine-t-il. Toujours au Nord Kivu, Patient Douliba de Goma estime que le problème du Nord Kivu et du Kasaï oriental est que leurs populations ont un tribalisme très accentué. Kims, Maurice, Ambujima et Kasaï Oriental voudraient que le 40% serve à alimenter la province en électricité et à l'urbanisation de la ville de Chikapa. Pour Carlos Benga de Boutembou au Nord Kivu, le Parlement provincial du Nord Kivu devra se préoccuper de l'affaire Kouda, des Interabwe et du parc de Virunga qui est en péril. Enfin, Émile Serge KMB de Kananga, Kasaï Occidental, dit « Ces députés doivent de prime abord penser à la reconstruction de nos provinces ».
Voilà, Monsieur Isaac Kalongi, brièvement, vous avez 30 secondes pour réagir à ces opinions des auditeurs.
J'adhère totalement aux préoccupations de mes frères qui, d'une province à l'autre, donnent leurs avis sur ce que va être notre pays après les élections. Je suis d'avis. Néanmoins, je tiens à préciser que chaque entité politico-administrative a ses spécificités, et que tous les problèmes qui se posent, par exemple, à l'est du pays, ne se posent pas chez nous ici, raison pour laquelle la guerre pour atteindre Mbujimayi a pu mettre 5 ans, c'est ainsi que ceux qui sont à la frontière ont des problèmes spécifiques concernant la sécurité, la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ceux qui sont au centre ont des problèmes d'enclavement, et c'est aussi des problèmes cruciaux qu'il faut résoudre absolument. Et en créant des routes, en créant des aéroports, en créant des ports, et en ce moment-là, on aura résolu province par province le problème auquel la population de chaque province est confrontée.
Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, vous intervenez pour le compte de la province du Nord Kivu. Pouvez-vous également réagir par rapport à ces opinions des auditeurs que nous venons de suivre?
Oui, les auditeurs ont raison. Ils ont raison pour ceux qui pensent que dans la province du Nord Kivu, on ne peut pas relancer l'économie, on ne peut pas créer des infrastructures parce qu'il y a de l'insécurité. Il faudrait leur dire que c'est un problème aussi de volonté. Le problème de volonté politique, lorsqu'on veut construire, on peut construire. Alors que le Burundi était en guerre, le boulevard était en train d'être construit. Donc, ce n'est pas simplement un problème de sécurité qu'il faudrait avancer. Ici, il faut voir aussi le problème de volonté. Volonté pour construire la province, volonté aussi pour élaguer la sécurité. Et ça, c'est un problème majeur pour les députés provinciaux qui sont élus et pour l'exécutif provincial qui sera mis en place de façon à pouvoir mettre dans leur espace vital un environnement qui puisse permettre une bonne vie et une façon de pouvoir appréhender les choses.
Merci Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo, merci également Monsieur Isaac Kalonji pour avoir répondu à cette invitation. Merci également à tous les auditeurs qui ont suivi cette émission consacrée aux enjeux des élections provinciales du Nord Kivu et du Kasaï Oriental. L'épisode de ce soir est donc la dernière d'une série d'émissions que vous suivez depuis maintenant 3 semaines. Cette émission sera rediffusée demain matin à 5h30 heure des Kinshasa. Sur ondes courtes, nos auditeurs pourront la suivre à partir de 5h également sur 11 690 kHz. Sur le site internet, elle sera disponible sur www.radiokapi.net. Au nom de toute l'équipe des dialogues entre Congolais, nous vous souhaitons un bon week-end et à la semaine prochaine.